Donc on s'assied, c'est ça. L'exposé va durer environ 45 minutes.
45 minutes, oui.
Et vous dites, si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, ne pas hésiter à...
Ne pas hésiter à intervenir. Oui, je...
Ou s'il y a des passages qui semblent peut-être trop...
Oui, trop compliqués, on passe.
Ce qu'on se disait après, c'est qu'on pourrait faire donc une heure, ou peut-être une heure et quart, de quelque chose comme ça, de discussion collective, c'est-à-dire de débat en fait collectif, hein. Peut-être en organisant aussi les tours de parole, style quand on veut parler, on lève la main et quelques notes dans l'ordre pour pas que ce soit la confusion, les dialogues, les. Et permettre bon, ben, peut-être qu'il y ait un meilleur tour de parole. Que, ensuite on pourrait faire une pause et ensuite reprendre, soit comme on avait commencé, soit en groupe plus petit si des personnes jugent préférable de discuter en groupe plus petit, ce qui aide à une expression de tout le monde, et puis aussi peut-être à d'autres types d'expressions.
Alors, tout à fait.
Je pense qu'il y a encore des gens qui vont arriver, mais si on attend, on va attendre.
C'est comme vous voulez. On met la clé de contact. Alors, mesdames, messieurs, bonjour, et puis je suis vraiment très heureux d'être parmi vous ce matin. Je crois que pour la bonne compréhension de l'exposé, il m'apparaît à la fois par politesse préférable de présenter pour voir comprendre le cheminement qui m'a conduit à ma présence ici avec vous. Sur l'aspect état civil... Donc, je suis né en 1939, les cheveux blancs en témoignent. Je suis marié, j'ai deux enfants et j'ai deux petits-fils. Sur l'aspect professionnel, j'ai été professeur de français, puis principal de collège. Sur l'aspect électif, j'ai été adjoint au maire d'une commune de 3500 habitants, commune rurale, pendant 13 ans. Au niveau militant, j'ai appréhendé l'écologie dès la campagne de René Dumont en 1973-1974. J'ai été sympathisant vert, j'ai bien connu par exemple Yves Cochet, puisque j'habitais à Cesson-Sévigné, que lui habitait à Champy. Ce sont deux communes séparées de 3 km. Et donc, j'ai assisté en tant que sympathisant pendant plusieurs années aux réunions des Verts qui se déroulaient à Rennes. Au moment de la scission, j'ai adhéré au mouvement écologiste indépendant d'Antoine Wechter, parce qu'il y avait le terme, vous comprendrez par la suite, il y avait le terme indépendant. Et dès la création de la Convention Vie et Nature pour une écologie radicale, j'ai adhéré à la CVN, où j'ai connu là, un personnage qui n'a pas pu venir à ma place, et qui est vraiment extraordinaire, beaucoup le connaissent, il s'agit de Gérard Charolois. Mais je dirais que ça paraît un peu anecdotique. Ce qui me paraît essentiel et primordial, ce sont des souvenirs d'enfance, puis d'adolescence, qui ont nourri mes réflexions ultérieures. Premier souvenir d'enfance, c'est le caractère féminin de l'environnement de ma jeunesse. Un père, bien sûr, mais une mère, une sœur, 7 ans mon aînée, 2 grands-mères, je n'ai connu aucun de mes 2 grands-pères, l'un était agriculteur et il est mort d'un coup de pied de cheval au ventre, l'autre était marin, il a ramené une fièvre jaune d'Indochine quand mon père et ma mère avaient 6 ou 7 ans. Donc je n'ai absolument pas connu, je n'ai pas de référentiel masculin. Puis après la période de scolarité, c'était une majorité de femmes déjà. Au service militaire, j'étais au ce qu'on appelle le centre mobilisateur numéro 50, qui était occupé uniquement par des femmes. Il y avait 3 militaires d'autorité supérieure, mais sans ça, ce n'était que des femmes, et j'étais également secrétaire dans ce CM50. Bref, j'ai vécu essentiellement dans un milieu féminin qui m'a fait prendre conscience, je pense, de l'évolution et de la prise de conscience de la femme dans la société économique d'une part, mais aussi sociétale et politique actuellement. Le deuxième souvenir, c'est le recul de la société rurale. Recul de la société rurale qui peut se subdiviser en 3 reculs. Le recul de l'importance de la noblesse. Cesson-Sévigné, c'était une commune rurale à 5 km de Rennes, mais vraiment rurale. Il y vivait à l'époque une vieille comtesse. Et lorsque cette vieille comtesse entrait dans un commerce, eh bien la commerçante, la marchande, arrêtait toute activité et se consacrait immédiatement à cette vieille comtesse. Alors, un enfant... c'est l'injustice, c'est pas juste. Donc ça m'avait très fortement marqué. Un autre aspect de cette société m'avait fortement marqué également, c'est que lorsque cette vieille comtesse se déplaçait, son personnel ne marchait pas à ses côtés, mais plusieurs mètres derrière. Donc, lorsqu'elle est décédée, et ça s'appelait en plus de la Morvonnée, alors vous vous rendez compte, c'était la comtesse de la Morvonnée, oui. Et lorsqu'elle est décédée, il est évident que ça a complètement changé, quoi. Ses enfants, on ne leur donnait plus du tout. Et disons que cet aspect-là de la noblesse a commencé à disparaître, sinon complètement disparaître. Le deuxième souvenir de cette société rurale, c'est que la terre n'était plus la richesse. Ma sœur là, a épousé le cadet d'une famille d'agriculteurs, et je me souviens d'une réflexion de ses beaux-parents en disant à mes parents, vous êtes salariés, chaque fin de mois ça tombe, nous c'est la terre, c'est des aléas, c'est la terre qui ne vaut plus rien. Et effectivement, en 2 décennies, le prix de l'hectare de terre cultivable a été divisé par 4. Donc ça a été une évolution aussi qui m'a fortement marqué. Et dernière évolution, c'est celle du recul de ce que j'appelle le cheval crottin. Hein. C'est-à-dire sur les murs des églises et à la porte des cafés, il y avait des anneaux qui étaient accrochés pour attacher le cheval attelé à la calèche ou au cabriolet. Effectivement, les chevaux moteurs se sont substitués très rapidement aux chevaux crottins. Donc c'est... Si vous voulez, c'est une évolution, une réflexion qui a évolué sur le fait qu'il y avait des émergences, des mutations, ou même des ruptures, qui m'ont dit qu'on rentrait dans quelque chose de nouveau, sans que je perçoive encore ce que pouvait être ce monde nouveau qui émergeait. Alors, je vous ai dit que je suis rentré, j'ai adhéré à la CVN il y a 3 ans. Peut-être est-il bon de vous la présenter. Alors, la CVN, selon notre président, là, Gérard Charolois, et sur nous-mêmes, est un concept inédit, dans la mesure où elle est 3 choses à la fois. D'abord, une association de protection de la nature, ça c'est indubitable, mais également un club de pensée politique, de l'écologie politique, au service d'une écologie éthique, fondamentale, radicale, puisque l'adjectif est dans le terme « convention vie et nature » pour une écologie radicale. Tant au MEI, c'était le terme qualificatif d'indépendant qui m'avait attiré, là, c'est véritablement l'adjectif, le qualificatif de radical qui m'a attiré. Sachant que la rupture était plus importante, plus essentielle que le prolongement. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et c'est enfin, troisièmement, un mouvement d'abolition de la chasse et de la corrida. Pour ce dernier point, nous ne sommes pas le seul mouvement d'abolition de la chasse et de la corrida. Il existe par exemple une association qui s'appelle le RAC, Rassemblement Anti-Corrida. Il existe aussi une association peut-être encore plus connue qui s'appelle le CRAC, le comité... Non, c'est anti-chasse. Hein. Le RAC, c'est Rassemblement Anti-Chasse. Hein. Et le CRAC, le comité radicalement anti-corrida, dont le président Jean-Pierre Garrigue, qui est membre, qui est vice-président de la CVN, est venu, je pense que c'est en 2003, faire une conférence dans les estivales. Hein. C'est ça. Alors, la CVN définit un certain nombre de prolongements et de ruptures. La CVN reconnaît un aspect prolongement. La pensée écologiste, selon la CVN, ne s'identifie pas sur un néant, sur la négation de ce que les humains ont pensé depuis des millénaires. La CVN ne renonce pas aux acquis tels que la liberté, les droits de l'homme, la solidarité sociale. Ces avancées de la sensibilité, de la compréhension et de la compassion sont des acquis qui, pour nous, participent à l'évolution culturelle des sociétés. Évolution qui n'est pas sans rappeler, d'ailleurs, l'évolution biologique de la vie sur Terre. Mais la CVN exprime aussi un aspect rupture. La CVN dénonce les dogmes, les postulats, les axiomes, les principes premiers, des modes de pensée théocentriques et anthropocentriques, dans leur corollaire de progrès égoïstes, scientistes, technologistes et matérialistes. Elle dénonce aussi leur corollaire de croissance économique et d'excroissance démographique. La CVN institue la responsabilité de l'être humain. La CVN affirme la responsabilité de l'être humain au sein de la communauté du vivant. L'être humain, pour nous, est un membre de la communauté du vivant et il est de sa responsabilité de la respecter et de la faire respecter. Selon la belle formule de notre président Gérard Charolois, nous sommes responsables parce que le monde est à notre merci. Cette responsabilité s'exerce dans la réconciliation de l'homme avec la nature, avec la biodiversité, car seule cette réconciliation protégera la plante, l'animal et l'homme. Les termes « réconcilier » et « réconciliation » sont très importants. La charte de notre mouvement affirme L'être humain doit se réconcilier avec la nature et développer les qualités lui permettant de vivre en harmonie tant avec ses semblables qu'avec l'ensemble des autres êtres vivants dans le respect de la biodiversité. En effet, ce qui fonde pour nous le droit au respect d'autrui ne tient ni au sexe, ni à l'espèce, ni à la race, la nation ou la religion, mais à la capacité de partager le bien-être et la souffrance. C'est pour la CVN la nécessité de reconnaître une éthique du vivant et les droits du vivant, avec le refus total et définitif de toute discrimination, y compris bien sûr celle à l'égard de l'animal. Émergence, mutation, rupture, deux points, un changement fondamental. Suivant les termes mêmes de Gérard Charolois, radicaux mais non sectaires, intègres mais non intégristes, ardemment amoureux de la nature mais non fanatiques, nous contestons globalement la société contemporaine pour y promouvoir un changement fondamental. Quelle stratégie pour y parvenir ? Pour parvenir à ce changement fondamental, un dialogue respectueux et constructif s'impose avec les forces sociales, morales et politiques qui ne nient pas, qui ne refusent pas a priori la primauté du vivant. En revanche, de manière forte et claire, nous condamnons les ennemis de la terre, nous condamnons ceux qui tuent, ceux qui polluent, ceux qui bétonnent, ceux qui asphaltent, ceux qui spéculent, tous ceux qui dévastent la planète, soit par infantilisme attardé, soit par cupidité vorace. Quel combat emblématique pour la CVN ? Un seul combat emblématique, celui de l'abolition de la chasse, de la corrida et de la vivisection. En conclusion de cette trop succincte et trop rapide présentation de notre mouvement, on constate qu'il se dégage deux idées forces. Première idée force, la CVN exige l'exercice de la responsabilité dans une réconciliation dont bénéficient tous les êtres vivants, donc les animaux. Seconde idée force, la CVN exige cette responsabilité au nom d'une approche nouvelle de la pensée, le biocentrisme. Jusqu'à présent, notre convention Vie et Nature pour une écologie radicale produit la lettre hebdomadaire de notre président qui illustre l'actualité écologique en référence à nos valeurs et à nos objectifs. Voilà pour la CVN. Si ça va, on continue. Donc le thème de mon intervention, c'est le biocentrisme et le nouveau rapport à l'animal. Quelle est la problématique ? Depuis quelques décennies, il n'est pas nécessaire d'être sorcier pour noter une inflexion, un changement de ton, un accent nouveau dans les rapports de l'être humain à l'égard de l'animal. Pour nous, il s'agit d'une modification profonde du regard de l'être humain sur les autres espèces. Après l'évidence de l'animal-machine, de l'animal-objet, de l'animal-consommation ou de l'animal-spectacle, on commence à voir poindre pour cet animal, on commence à le voir poindre sous un jour nouveau. Quelques exemples. On peut citer l'interdiction récente de la chasse à courre en Grande-Bretagne. On peut citer la réglementation européenne relative au transport des animaux. On peut citer l'interdiction également récente de la corrida à Barcelone. Et on ne saurait oublier la sensibilité qui a secoué la France lors du décès de l'ours Canel. Je pense que... j'ai participé aussi à... C'était, je crois, le 6 novembre, il y avait une manifestation pour le loup à Paris, qui a regroupé, alors là, soyons ni dithyrambiques, soit trop modestes, mais entre 3000 et 5000 personnes, ce qui, aux yeux des organisateurs, ne s'était jamais vu à Paris, pour une manifestation pour la cause animale. Donc, selon nous, il y a véritablement là, soit des émergences, soit des mutations, des ruptures qui rentrent en compte dans la mentalité actuelle à l'égard de l'animal. Ce que j'appelle une véritable révolution globale des mentalités. Alors, s'agit-il d'une réaction ou d'une évolution de la mentalité actuelle ? S'agit-il d'une réaction ou d'une évolution de la mentalité actuelle ? S'il s'agit effectivement d'une réaction ou d'une évolution, il est nécessaire d'en déterminer et d'en approfondir les différents caractères, les différents paramètres, les différents facteurs pour savoir s'il y a une possibilité que ce soit durable ou pas. S'agit-il d'émergence, de mutation ou de rupture qui préfigure effectivement une véritable révolution globale des mentalités ? Si c'est cela, il s'agit de connaître les modes de pensée préalables pour voir en quoi ce nouveau mode de pensée se différencie des autres. Donc, dans cette partie de la problématique, je vais tenter d'analyser les paramètres et les facteurs de l'inflexion en tant que réaction, puis en tant qu'évolution. Alors, en tant que réaction, face aux activités dévastatrices de l'homme, face au gaspillage des ressources, face aux continuelles tueries, à la constante barbarie, hélas, des rapports humains entre eux et à l'égard de l'animal, face à tout cela, la conscience s'insurge. Il existe d'ailleurs un mouvement écologiste, le mouvement de Pierre Rabhi, qui s'est qualifié d'insurrection des consciences. Cette réaction, alors cette fois-ci pour moi, doit être associée à la recherche éternelle, entre guillemets, pour retrouver l'Éden, le paradis perdu, la pureté originelle, ce que l'on a parfois appelé l'hédonisme écologique. Dans ces conditions, cette recherche est un effet nostalgie. Ce qui devient essentiel, c'est l'émerveillement devant le chant d'un rossignol, devant la grâce d'un chevreuil, la majesté d'un arbre, la pureté d'un glacier, l'infini d'un ciel étoilé. Ce qui devient essentiel, c'est la capacité de ressentir cela. Ce qui devient essentiel, c'est la nécessité absolue de préserver toutes ces magnificences de la nature, toutes ces magnificences de la biodiversité, pour le seul service et le seul confort de l'homme. C'est au nom de ce Seigneur et Maître qu'il faut absolument préserver la nature. C'est une réaction émotionnelle, une réaction passionnelle, qui n'a rien à voir avec les certitudes scientifiques. Les sciences dites progressistes, ne tenant absolument pas compte de la biodiversité. La biodiversité est en effet une notion totalement inconnu des sciences prétendues exactes. Plus particulièrement, face aux activités cruelles de l'homme, on assiste à une dénonciation de la souffrance infligée aux animaux. C'est l'apparition d'un certain moralisme, la recherche d'une éthique, d'une morale à partir d'une réflexion du genre « on n'a pas le droit de faire ça ». Le biocentrisme, dont on reparlera tout à l'heure, a parfois été défini comme une théorie morale. Une nouvelle éthique, celle d'une conscience qui ne peut plus supporter la souffrance gratuite, la souffrance spectacle, la mort loisir ou la mort spectacle de l'animal. Une insurrection de la conscience qui conduit parfois, j'ai rencontré une personne dans ce genre, à s'associer à l'animal qui souffre de posséder l'identité humaine. Cette personne, elle voulait être un bigorneau qu'elle jugeait être l'animal le plus humble de la création. Bon. Mais très sincère, hein, et pas farfelu du tout. Cette démarche suppose la primauté de l'éthique sur la certitude scientifique. Alors, après avoir, c'est pour moi les paramètres, les facteurs, les caractères de l'aspect réaction à l'égard d'une meilleure condition de l'animal. Essayons maintenant de voir quels peuvent être les paramètres, les facteurs, les influences sur l'évolution, sur l'aspect évolution. Aujourd'hui, les gens dans leur ensemble perçoivent les conditions de notre existence comme une agression perpétuelle. Le bruit, la pollution, la violence. La nature et l'animal sont considérés comme des ressources exploitables à l'infini. La tendance comportementale dominante ne considère comme valable, ayant une valeur, que ce qui peut être utile à l'espèce humaine. C'est ce que l'on appelle l'argument anthropocentrique ou l'argument humaniste. Face à cette agression, on assiste à ce que l'on pourrait appeler une humanisation croissante du vivant. De plus en plus, la pensée religieuse et la pensée humaniste intègrent l'animal dans leurs préoccupations en développant la sensibilité, le sentiment, la compréhension et la compassion. Nous assistons, semble-t-il, à un transfert des valeurs humaines de l'homme à l'animal dans une sorte de continuité apparente de la pensée religieuse et de la pensée humaniste. Ce qui est alors revendiqué, c'est la reconnaissance de la valeur primordiale du sentiment, la valeur de la sensibilité. Dans ces conditions, réaction et évolution ne doivent pas être opposées ni hiérarchisées. Mais vertu, sentiment, sensibilité, compréhension, compassion, qui sont quand même décriés par leurs détracteurs pour être associés à de la sensiblerie. De toute façon, je n'ai pas fait plus de 1200 km aller-retour pour évoquer ces choses que vous connaissez déjà. Je ne nie pas l'importance de ce qui précède, ni la sincérité des personnes qui défendent la cause animale au titre de la réaction et au titre de l'évolution. Mais l'objet de ma venue, de mon intervention, est de rendre visible le lien qui associe la défense de la cause animale à un nouveau mode de pensée en pleine expansion, selon nous, le biocentrisme. Donc, dans cette dernière partie, je vais tenter de la problématique. C'est pas fini. Je vais tenter de montrer que le nouveau rapport à l'animal est dû à une approche nouvelle de la pensée, un nouveau mode de pensée qui préfigure une véritable révolution globale des mentalités. Sans se confondre ni s'opposer, cette véritable révolution s'enchevêtre dans deux approches préalables de la pensée, et plus particulièrement dans deux modes de pensée, le théocentrisme et l'anthropocentrisme. Continue. Des milliers d'associations défendent la cause animale. Depuis des décennies, des centaines, des milliers de dévouements, des milliers d'énergie, de disponibilité, de conviction, de générosité, on ne peut nier ces faits au quotidien. Mais pour quelle efficacité ? On se console en disant que la diversité est une richesse. Mais richesse ne veut pas dire efficacité. Chaque association développe en elle-même un geyser, mais ce sont des geysers qui sont côte à côte, au mieux. Souvent, une association souhaite l'union, mais une union dont elle se veut être la main qui unit. Ponctuellement, certaines associations coexistent le temps d'une manifestation dans un groupe, un comité, un collectif, un réseau. Certaines individualités, à toutes les époques, ont aussi réussi à adoucir la condition animale. On peut citer peut-être l'une des plus célèbres, Saint François d'Assise, l'ami de la nature au XIIIe siècle. Tant de forces magnifiques, mais éparpillées. Tant d'énergie fabuleuse, mais diluée. Tant de générosité, tant d'ardeur, de dynamisme extraordinaire, mais émietté, pulvérisé, poussiérisé. Combien d'années, combien de décennies, de siècles faudrait-il face aux lobbies bien structurés, bien financés, bien soudés? Et pourtant, une conscience écologique se lève. Et pourtant, la défense de la cause animale s'amplifie. Alors pourquoi? Sans nier le rôle irremplaçable des associations qui constituent le terreau fertile de cette conscience écologique, j'ai la conviction, l'intime conviction, que des émergences, des mutations, des ruptures annoncent un nouveau mode de pensée qui sous-tend de façon irréversible la défense de la cause animale. Après les religions, après l'humanisme, émerge le biocentrisme. Le biocentrisme ne s'oppose pas et ne se confond pas. Il s'enchevêtre dans l'anthropocentrisme et dans le théocentrisme. Mais qu'est-ce que c'est que le biocentrisme ? Continue. Le biocentrisme est un mode de pensée comme le théocentrisme et comme l'anthropocentrisme. Le théocentrisme a généré les trois grandes religions dites du livre, le judaïsme, le christianisme et l'islamisme. L'anthropocentrisme a généré une grande philosophie, l'humanisme. Et bien de même, le biocentrisme en tant que mode de pensée génère actuellement une philosophie qui est l'écologisme. Approche de pensée, mode de pensée, voilà des notions peut-être que je vais essayer de clarifier en quelques minutes. Alors, pour partir d'un fait qu'on ne peut pas mettre en doute, c'est la distinction entre les temps préhistoriques et les temps historiques. Ça, je crois que personne ne met ça en doute. Donc, pour moi, il y a une approche de pensée pour les temps préhistoriques et une approche de pensée pour les temps historiques. Alors, les temps préhistoriques, je vais appeler ça l'approche cyclique de la pensée, et les temps historiques, je vais appeler ça l'approche linéaire de la pensée. Donc, pour démarrer, si vous voulez. Alors, c'est là, si ça vous ennuie, on s'arrête et on continue. Alors, l'approche cyclique, l'approche linéaire, et donc, s'il y a une approche de la pensée qui correspond à un mode de pensée, s'il y a un mode de pensée, le biocentrisme, il y a donc une approche de pensée qui conduit au biocentrisme. Alors, elle n'a pas encore de qualificatif consensuel, on pourra l'appeler interactive, on pourra l'appeler complexe. Il y a Edgar Morin, par exemple, qui est le président d'une association d'approche complexe de la pensée. Peut-être que on l'appellera complexe, hein, ce sera plus facile. Alors, pour bien comprendre, qu'on puisse différencier, parce que c'est quand même une sorte de postulat, de vouloir dire, certaines personnes pensent que la pensée est une chose qui évolue. Tandis qu'à partir du moment où on fait une classification, c'est peut-être plus satisfaisant pour l'esprit, pour la conscience, mais c'est une forme de postulat, ça c'est évident. Mais ça permet de clarifier et de comprendre peut-être mieux l'évolution de la pensée. Donc, chaque approche a des caractéristiques. Pour l'approche cyclique et l'approche linéaire, elles sont, mais là encore c'est pour faciliter, c'est des caractéristiques que l'on peut comparer. Par exemple, la notion de temps. Sous l'approche cyclique, donc dans les temps préhistoriques, nos ancêtres avaient remarqué que leur calendrier était généré par le retour d'astres à des périodes bien définies. Donc ils ont un temps qui est sous la notion de cycle. Avec le judaïsme et surtout avec le christianisme, il y a la mort du Christ. Alors, le Christ meurt, il ressuscite, mais c'est pour l'éternité. Autrement dit, on prend, si vous voulez, on prend le cercle, on le coupe et on l'étire. Le temps va avoir un début et va avoir une fin. Tandis que dans l'approche cyclique, le temps n'a ni début ni fin. Et jusqu'au XVe siècle, avec Nicolas Copernic, lui, le mouvement régulier, premier, naturel des choses, est le mouvement du cycle. Donc jusqu'au XVe siècle de notre ère. C'est une première. On a une seconde caractéristique, si vous voulez, c'est le nombre. Dès qu'il y a eu échange entre deux êtres, il a fallu déterminer une sorte d'unité de mesure. Donc on peut penser que sous l'approche cyclique, c'est-à-dire au temps préhistorique, c'était le nombre 12. Alors, pourquoi 12 ? Il y a deux explications. Première explication, c'est que sur les quatre doigts, chaque doigt ayant trois phalanges, donc ça fait 12 phalanges. Et avec le pouce, il suffisait d'indiquer, de calculer dans le bon sens évidemment, mais on avait le nombre, on montrait le nombre, même sans le dire, de ce qu'on voulait mesurer. Chaque doigt de l'autre main représentant 12 à lui aussi. Donc, une main représenterait 60 et l'autre main représenterait 12. Donc on pouvait, comme ça, et en montrant plusieurs mains, on pouvait quand même augmenter le nombre. À partir du moment où on a l'approche linéaire qui correspond à l'agriculture, à l'écriture, mais je passe assez vite, à partir du moment où on découvre l'écriture, on va pouvoir oublier les nombres petits, on va pouvoir commencer aux nombres complexes. Donc on va passer du 12 au 10. Alors, on voit que le nombre 12 va continuer jusqu'à nos jours. Hein, parce qu'une heure, ça fait toujours 60 minutes. Hein, et dans l'année, il y a toujours 12 mois. Et dans un jour, il y a toujours 12 heures. Il y a 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Enfin, le 12, il y a encore très peu de temps, les sardines se vendaient encore à la douzaine. Si vous voulez acheter des œufs en boîte, vous achetez une demi-douzaine. À l'époque, au Moyen-Âge, le seigneur, quand il affranchissait un homme, cet homme lui payait un douzain, et lorsqu'on affranchissait une femme, cette femme payait un sixain. Vous voyez, 12 et 6, ce qui a donné l'expression qu'une femme était la moitié. Un mari parlait de sa femme en disant « ma moitié », et c'est un souvenir du Moyen-Âge où un homme valait effectivement un 12 ans, alors que la femme valait un 6 ans. Depuis, on est passé du 12 au 10. Le 12 a tendance à se disparaître pratiquement. On le trouve encore dans la littérature pour désigner un nombre de personnes réduit, si vous voulez. Hein. Tiens, j'ai croisé une douzaine de personnes. Hein. Chez Balzac, et chez un auteur, là, Aldo Léopold, qui est un écrivain biocentriste, pour aider à dire, hein, il emploie la même expression de 12. Quoi, hein. Il dit, un paysage photographié par une douzaine de touristes ne souffre pas davantage s'il est photographié par une centaine ou par un millier de touristes. Bon, le passage, lui, on n'en parle pas. Donc, ça peut être une deuxième façon de différencier l'approche cyclique et l'approche linéaire. On peut retenir aussi, par exemple, que le Christ, puisqu'on en revient à cette origine, à cette source de la pensée linéaire, qui est le monothéisme, c'est le monothéisme. À l'origine, si vous voulez, c'est Akhenaton, ce pharaon égyptien qui, 1300 ans avant le Christ, avant le christianisme, avait déjà institué le monothéisme en Égypte. Donc le Christ, par exemple, a 12 apôtres, mais Dieu révèle sa loi à Moïse sous la forme de 10 commandements. Donc on voit là déjà l'enchevêtrement du 10 et du 12. Maintenant c'est le 10, effectivement. Sauf pour la mesure du temps, et sauf pour la mesure des angles, où on a conservé les degrés, 60 degrés, 90 degrés, 360 degrés pour la sphère. Quand j'étais en classe de 4e, les programmes comportaient des tables de translation entre le degré et le grade. Les rationalistes de l'époque avaient voulu imposer le grade comme mesure. Et donc 90 degrés correspondait à 100 grades, etc. La 360 degrés correspondait à 400 grades. Bon, depuis ça a complètement disparu. Le grade maintenant c'est un ordre d'un niveau dans l'armée, mais ça n'a jamais été une mesure d'angle. Autrement dit, le 10 a eu quand même deux échecs. Pour les surfaces, pour les distances, les surfaces et les volumes, le 10 me s'est imposé. Hein? Par contre, pour la mesure du temps et la mesure des angles, ça a été un échec complet. Alors, pour combien de siècles encore, je n'en sais rien. Hein? Pour la mesure du temps, la tierce, par exemple, quand j'étais jeune, la tierce existait encore. Hein? C'était la 60e partie de la minute. Bon, la tierce a complètement disparu. La science et le sport ont imposé le dixième, le centième, le millième de seconde. Et pour la minute, à notre époque, certaines indemnités horaires sont calculées en centièmes d'heure. Donc, si vous voulez, il y a quand même une évolution vers la généralisation du 10. C'est une troisième distinction, c'est le mouvement, mais je passe très vite, hein, donc le mouvement circulaire au mouvement linéaire. Le meilleur exemple qu'on peut prendre, c'est que la fronde, et c'est Descartes qui le démontre, une fronde, qu'est-ce que c'est? La pierre, elle a tendance, dit Descartes, à aller tout droit. Si elle va en cercle, c'est parce qu'elle est contrainte. Hein? Donc le mouvement naturel, c'est le mouvement linéaire, et ce n'est plus le mouvement circulaire. Ah, voilà, bon, ça c'est des caractéristiques. On peut aller plus avant, sur les fondamentaux. Ça aussi c'est intéressant. Hein? Pour l'approche cyclique, pour les temps préhistoriques, c'était la pêche, la chasse, la cueillette. C'était aussi au niveau social le matriarcat. C'était comme moyen de communication, c'était l'oral. Tandis que pour l'approche linéaire, il y a 10 000 ans, c'est l'agriculture, c'est-à-dire qui va sédentariser les populations, qui étaient nomades encore sous l'approche scriptive. C'est l'écriture. Deuxième fondamental très 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 important de l'approche linéaire, c'est l'écriture, inventée il y a 6 millénaires à peu près en Mésopotamie. Se rappeler que l'évolution, l'invention de l'écriture ne s'est pas faite tous les jours en même temps. En Amérique du Nord, par exemple, c'est simplement en l'an 800 de notre ère que l'écriture a été inventée. Certaines peuplades d'Amazonie ou d'Afrique ne connaissent toujours pas l'écriture. Et le troisième fondamental, alors ça, donc si on peut dire pour l'approche cyclique que c'était le matriarcat, pour l'approche linéaire, on va dire que c'était le patriarcat. Pour l'approche cyclique, on peut supposer que chasse, pêche, cueillette nécessitait beaucoup de gens, et les hommes jeunes, etc. Donc la femme reproductrice avait un impact considérable. Sous l'approche linéaire, agriculture, cette fois-ci, il va falloir défendre les récoltes contre tous les prédateurs, aussi bien du ciel, donc on voit le monothéisme arriver pour protéger les récoltes, ou favoriser les récoltes, et prédateurs terrestres, donc on voit le soldat qui, et le mur qui vont venir défendre les patrimoines. Alors, moi ce que je voudrais essayer de tenter de montrer, c'est que cette approche linéaire-là a donné naissance donc à deux modes de pensée. Parce qu'une approche, de pensée, c'est trop vaste, c'est trop flou, c'est trop enveloppant pour que la conscience puisse l'appréhender globalement. Je dis quelquefois, est-ce qu'un poisson sait qu'il existe autre chose que l'eau? Mais est-ce qu'un poisson sait que l'eau existe? Nous-mêmes, on a attendu le XVIIe siècle pour mettre l'existence de l'air en évidence. C'est l'expérience de Torricelli, 1646, quelque chose comme ça. Autrement dit, ces trois fondamentaux-là, par leur synergie, leur effet de synergie, vont générer alors le théocentrisme d'abord, et puis l'anthropocentrisme. Donc là, on va trouver une transcendance qui est Dieu. Et pour l'anthropocentrisme, on va trouver une transcendance qui est l'homme. Donc on va installer chacune de ces transcendances sur un piédestal, si vous voulez. Donc ça va conduire, cette transcendance va orienter la réflexion, va fixer des vérités et des réalités qui vont être traduites dans nos jugements, dans nos comportements, au travers des mythes, la mythologie, si vous voulez, et des rituels. Ils appartiennent tous les deux à l'approche linéaire. Alors là, si vous voulez, je vais prendre un seul point pour ne pas être trop long. C'est le problème de l'origine. L'approche linéaire de la pensée pose pour la première fois le problème de l'origine. À l'approche cyclique, c'était un renouvellement sans fin, qu'on retrouvera par exemple dans la réincarnation, même si on peut s'arrêter à 7, le nombre 7 aussi est très important, au bout de 7 réincarnations, on peut avoir une nirvana, etc., mais c'est compliqué. Tandis que le théocentrisme et l'anthropocentrisme posent pour la première fois dans la pensée humaine le problème de l'origine. Pour le théocentrisme, c'est Dieu le créateur, qui fait la création, la nature et la créature. Et cette créature a la maîtrise de la création. Ça, c'est indubitable. On ne peut pas en changer. L'anthropocentrisme, lui, va aussi trouver problème de l'origine. Il ne veut pas Dieu. Il met le Big Bang. Il ne veut pas du jugement dernier. Et il met le Big Crunch ou le Big Crash. Mais c'est parce qu'il... Bon, je ne dis pas qu'il invente, parce que les réalités de l'un ne sont pas forcément les réalités de l'autre, mais les réalités de l'un et de l'autre me semblent après tout aussi respectables. C'est l'usage que l'on en fait quelquefois. Donc là, on va tout orienter sur Dieu. On en voit des manifestations malheureusement aujourd'hui. Et là, on va tout orienter sur l'homme. Donc, toute la nature, animale compris, va être au service de l'homme. Et l'homme va devoir maîtriser la nature et tous les articles que j'ai lus pro-corrida sont là pour indiquer la maîtrise de l'homme par rapport à la force brutale et sauvage de l'animal. Alors maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose dans la troisième case? Ah oui. Ah, mais selon moi, toujours. Hein. Enfin, selon moi, je ne suis pas tout seul, on va exagérer. On va voir les fondamentaux. Les caractéristiques, à mon avis, sont la coévolution et la complexité. Alors là, il y a des textes remarquables sur la coévolution, hein, par rapport. Parce que ça, c'est l'opposition, si vous voulez. Hein. Au 5e siècle, par exemple, en France, le théocentrisme, c'est-à-dire on détruit les temples, les croyances et les adeptes du temple de Zeus. Hein. Bon. Je suis passé là au Puy-en-Velay pour venir. Il y a sur le sommet d'un joyau architectural de la nature, c'est là qu'avaient lieu les oracles d'Apollon. Hein. Maintenant, c'est une basilique. Bon, ben c'est, on a vu que chacun a succédé. Donc, pour les fondamentaux, il y a l'interactivité, l'interaction, le référentiel. Donc qui n'est plus le dogme, qui n'est plus le postulat, qui n'est plus le principe premier sur lequel il faudrait. Et il y a surtout le média. Donc là on avait l'oral, là on avait l'écrit, et là maintenant on a le média, c'est-à-dire l'association de l'image, de la couleur et du son. Alors, c'est l'effet de synergie de ces trois fondamentaux qui génère le biocentrisme. Alors, s'il faut vraiment lui donner une transcendance à ce biocentrisme, eh bien, c'est le vivant, c'est la biodiversité. Voilà. Donc, bon, c'est trop rapide, hein, c'est trop succinct, parce que... Mais, je veux dire, c'est pour un peu légitimer, si vous voulez, ce troisième mode de pensée que l'on va étudier, que je pense... développé devant vous maintenant, mais pour lui donner une visibilité par rapport aux deux autres modes de pensée. Si vous voulez, ce qui est choquant dans ce que je vous présente, c'est que pour moi, et pour en général les adhérents, enfin la majorité des adhérents de la CVN, il n'y a pas possibilité de réforme, d'ajustement. C'est, il y a une rupture entre deux modes de pensée que l'on trouve actuellement dans l'écologie politique, mais bon, je préfère aborder maintenant, si vous le souhaitez. On continue. Alors, oui, monsieur.
Oui, rien à voir avec le sujet, mais c'est une question toute bête. Le problème de la cigarette ici, c'est infernal, pour moi, je m'entends. Donc je propose, comme je vous aime tous, je propose qu'on s'astreigne, pardon, j'arrive plus à parler. Parce que vous voyez, j'ai fumé autant que les autres. Pourtant, ça fait 3 ans que j'ai arrêté. Donc je propose que une fois toutes les heures, nos amis fumeurs puissent enfin s'éclater dehors. Parce que je comprends très bien, j'étais comme eux il y a 3 ans. Hein. On entre-ouvre la porte pour écouter ce qui s'y passe. Et puis il faudrait leur faire une théorie sur les mouvements de l'air, parce que l'air chaud monte. Et on peut soit rentrer par la porte, amène avec lui la fumée. Et me pourrit l'existence. Alors je suis pris, j'arrive plus à vous suivre. Tous les amis là, je les aime, je comprends qu'ils fument, mais moi je souffle là, j'ai une tête comme un compteur bleu là en ce moment. Donc je propose encore une fois qu'on s'arrête au moins une fois toutes les heures pour qu'ils puissent se droguer, quoi. Là, voilà. C'est tout. Donc je propose une pause là, ah, bah, allez-y.
Oui, mais c'est vrai, c'est très possible parce que ça va permettre de digérer aussi. Et puis il y a une. Là, ça demande un quart d'heure sur le biocentrisme proprement dit et le rapport à l'animal, qui est la conclusion, effectivement. Donc on peut effectivement. Ça
ouais,
arrête.
Moi, j'ai besoin de
ça. Allez.
On va faire un peu des fumeurs. Ah oui, non,
alors pendant la pause et pour les non-fumeurs, j'ai rédigé un petit livre. Donc si vous voulez me fixer.
Well, that's right.